Merci Pierre Pastré. Donc on a rattrapé quand même du temps par rapport à notre retard. Donc il nous reste quand même donc de une heure de discussion, de questions, de polémiques, de demandes de précisions supplémentaires, d'exemples. Voilà. Alors moi j'ai beaucoup de questions, mais on va commencer par faire circuler un peu peut-être le micro pour demander tout de suite. C'est d'abord, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient avoir des informations supplémentaires pour clarifier des choses ou préciser des choses qui ont été dites trop rapidement, trop allusivement, ou qui ont fait allusion à toute une série d'auteurs qui ne sont pas forcément familiers aux gens qui fréquentent les écoles et pas l'ergonomie du travail depuis 20 ans. Je peux simplement dire comme expérience de découverte de la, en attendant que les bras se lèvent et que les micros se prennent, de découverte de la lecture de la littérature, puisque je ne sais pas appeler ça autrement, enfin des corpus d'écriture venant de ce monde-là, il y a déjà presque 20 ans, grâce à Vergniaud d'une certaine manière. Je pense que moi, mon premier moment de contact avec ça, c'était le rapport Payous sur le problème des bas niveaux de qualification. Donc ça date quand même...
Ça date d'une... de 87, 87.
Alors il y avait un article dedans dont j'ai gardé mémoire de Merle, qui racontait comment, je ne sais plus dans quelle entreprise de Vers Grenoble, lorsqu'ils avaient fait une analyse des compétences de tout le personnel de l'usine pour penser des requalifications professionnelles au moment où les modes d'organisation du travail changeaient. Il s'était rendu compte de deux choses, c'est qu'il y avait énormément d'ouvriers de bas niveau de qualification, entre guillemets, qui étaient beaucoup plus compétents que leur poste de travail ne le nécessitait. Et que du coup, on pouvait pas du tout définir la compétence des personnes à partir du poste qui leur avait été attribué. Et ils montraient comment... Et donc du coup, dans le projet syndical organisé avec la direction de transformation du travail, ils avaient pensé comment il fallait prendre en compte les compétences réelles dans les activités riches ou moins riches, plutôt que la définition des postes de travail. Et ça, c'était au moment... où sur le mode, sur la PPO, justement, sur les pédagogies par objectif, je voyais très bien le mur dans lequel on allait, qui était de définir les tâches uniquement de manière un petit peu standardisée. Et j'étais étonnée de voir à quel point les lectures que je faisais dans le monde qui concernait un monde totalement étranger à l'école me semblaient extraordinairement familières, parce qu'à tout moment, je pouvais mettre des situations scolaires derrière les situations industrielles, par exemple. Et puis, il y avait l'autre livre, le livre de Jorion et Delbos, qui s'appelait « La transmission des savoirs », qui était cette fois sur l'analyse d'ethnologie, finalement, plutôt de point de départ, et où... ce qu'il expliquait sur les saliniers de Guérande ou les ostréiculteurs de la côte Est, il y avait les ostréiculteurs, c'était le modèle de il y a quelqu'un qui fait de la recherche et qui vient de l'Ifremer, il y a un ostréiculteur, son problème c'est d'améliorer sa production des huîtres, et puis il y a un pauvre alors moi je disais c'est le normalien de service, c'est-à-dire un élève d'un lycée professionnel qui vient se former et qui lui, il participe à l'activité, mais son problème, c'est qu'il réussisse son examen final. Et on avait une situation qui était le chercheur INRP qui vient faire de la didactique dans une classe, le maître d'applique qui est intéressé de tirer quelque chose du chercheur, lui, pour améliorer son ordinaire et pour pouvoir s'approprier ce qui est dit ou en parler. Et puis, on avait le normalien qui faisait son stage et lui, son problème, c'est qu'il soit bien évalué. Et comment ces intérêts se combinent, se contredisent et fonctionnent, pour moi, c'était extraordinairement parlant. Ça m'a aidé immédiatement pour parler des situations qui étaient des situations professionnelles que je connaissais très bien. Et j'en étais restée simplement à la fois surprise et, me posant des questions sur la légitimité des transferts. C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait emprunter ou pas emprunter? Est-ce que c'était métaphorique ou pas? Et puis depuis, les choses ont progressé de manière lente, puisque d'une certaine manière, je dirais que pour moi, la didactique des disciplines a occupé pendant 20 ans une place si importante et si forte que d'une certaine manière, elle empêchait ou elle se trouvait en contradiction avec une analyse qui ne partait pas d'abord de la spécificité qui définit les contenus disciplinaires. C'est-à-dire que tout le travail de ces 30 dernières années, ce qui était prioritaire pour la formation des enseignants, c'était quand même de se centrer sur est-ce qu'on enseigne des maths, est-ce qu'on enseigne de la littérature. Et puis, il y avait une espèce de didactique générale dont j'étais soi-disant responsable, puisque j'étais prof de philo, moi aussi, et donc psychopéda en école normale, et qui était le reste, le non-disciplinaire ou le transversal, le mou, voilà. Voilà, je vous ai dit comment j'ai pensé, très important, l'étape actuelle où on est en train de conjuguer des modes de fonctionnement différents. Voilà, les questions se posent.
Bonjour, je voudrais d'abord remercier Pierre Pastré pour la qualité de sa prestation et qui a mis du grain à moudre dans mes recherches. Donc je suis Christine Montiori, je suis docteur en sciences de l'éducation, je suis dans l'équipe UMR ADEF de l'Université de Provence, avec notamment l'équipe de Geste Pro, avec Jacques Genestier. Nous travaillons énormément sur votre problématique, sur la tâche et l'activité, et notamment donc sur les usages des outils informatiques en classe. Je m'intéresse bien sûr à l'analyse de pratique par rapport à ce type d'enseignant, puisque je suis professeur d'économie-gestion en parallèle, et donc la bureautique en classe est incontournable. Et nous avons donc des enseignants, jeunes et moins jeunes, qui ont une moyenne d'âge, j'ai des enseignants qui ont par exemple mon âge, et qui sont là, qui viennent de la profession, hein, donc expert comptable par exemple, et qui viennent donc transmettre, parce que c'est leur mot, ce qu'ils savent du comptable, l'expert comptable. Donc la question est la suivante, c'est-à-dire que nous avons d'énormes problèmes parce que entre la profession et l'enseignement pour des élèves de bac professionnel en bureautique ou pour des BTS, nous avons ce souci-là, c'est que ce n'est pas la même chose, nous avons du mal à pouvoir faire la liaison. Et moi, je suis très intéressée par la tâche discrétionnaire qui m'intéresse à double sens, c'est-à-dire que effectivement, c'est mise à la discrétion de l'enseignant, mais j'aimerais un peu plus approfondir là-dessus. Les enseignants, lorsqu'on les filme, et on travaille beaucoup sur les analyses de vidéos, on travaille aussi sur l'intrigue et sur l'instant ou le bon moment où l'apprentissage est passé. Effectivement, lorsque l'enseignant donne une tâche, il y a une différence entre la tâche prescrite et la tâche réelle, eh bien, on voit à la fin que l'enseignant est content, entre guillemets, si je peux mettre ce terme, que l'élève a fini sa tâche et qu'il estime que l'élève a compris. Effectivement, réussir n'est pas comprendre. C'est ce qu'il constate par la suite au cours des contrôles. Je pense notamment sur le tableur, pour donner un exemple, parce qu'il y a d'autres apprentissages et là, il est démuni. Et c'est vrai que je suis très intéressée par cette notion. Si vous pouviez un peu plus approfondir, je vous remercie beaucoup.
Sur la discrétionnaire, tâche discrétionnaire.
Ah, les tâches discrétionnaires, bah oui.
Est-ce que tout de suite, on donne la parole à Pierre Pastré ou on ramasse d'autres... Il y a d'autres questions pour qu'il puisse, après, de manière discrétionnaire, manager ses réponses, ou plutôt que... Je pense que ça serait bien.
Ça fonctionne, vous m'entendez ?
Oui, ça marche.
Bah, moi, je ne m'entends pas, alors. Bien, bonjour, moi je suis Richard Tobzinski, je suis formateur à l'UFM de La Réunion en technologie. Et en fait, si vous voulez, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Pour autant, j'ai le sentiment que c'est un peu dense et qu'il y a en même temps l'apport sur les procédures et tout ce qu'on a comme concept autour des situations de travail, d'une manière générale, hein, avec les références à l'ergonomie telle qu'elle se passe dans l'entreprise. Et d'autre part, ce que je vois... Ah, ça ne marche plus, là je m'entends plus. Hein.
Ça va.
Oui. Et d'autre part, il y a effectivement quel type d'utilisation on pourrait en faire dans la tâche qui est la nôtre, autant que prescrite, hein, en tant que formateur, dans les ateliers de pratique, dans notre rapport à la professionnalité de nos professeurs stagiaires en cause.
Débutants, voilà. Professeurs stagiaires débutants.
Alors, si vous voulez, là, je voudrais revenir sur la notion même de ce qu'on appelait, ce qu'on fait encore, on appelle la didactique de discipline, effectivement. Les didactiques, hein, par rapport à ce que vous disiez, madame, l'opposition didactique pluriel singulier. Et il y avait, à mon sens, dans le modèle piagétien, quand même, disons, une certaine constance. Et moi, dans ma discipline, par exemple, qui était la technologie, la représentation qu'on pouvait se faire du savoir à enseigner, non pas en référence à un savoir savant au sens, disons...
Chevalard.
Ouais, voilà, chevalard. Mais on était plutôt sur le modèle de Martinan, sur les pratiques sociales de référence. Et donc là, directement, nous en étions, bien sûr, d'autant plus sensibilisés à l'approche des situations, enfin des sociotechniques, donc des situations réellement dans les entreprises. Et on en retirait, enfin je voudrais être bref hein, quand même, on en retirait quand même des notions comme, par exemple, les registres de technicité. Là, je ne vois plus du tout où ça part. La notion, ce qu'on appelait, nous, monde, aussi, effectivement, les tâches ouvertes, semi-ouvertes, fermées, que vous appelez discrétionnaires, et que je trouve ça, d'ailleurs, beaucoup plus intéressant. Mais enfin... j'ai l'impression qu'il y a là des articulations qui se font à un certain niveau, au niveau donc de la discipline ou encore des didactiques, et d'autre part, effectivement, en situation dynamique, et notamment cette situation dynamique, on a même du mal à la caractériser, c'est-à-dire en tant qu'approche systémique, hein, d'un point de vue systémique, quels sont effectivement les paramètres sur lesquels nous pouvons agir dans la conduite de la situation. Dans une classe, un enseignant, comme vous le disiez, avec les trois niveaux que je trouve très intéressants, mais que j'ai pas très bien compris, hein. Je vois pas très bien non plus. Vous voyez, c'est ça, en fait, ma question. C'est en fait, est-ce qu'il y a, à un moment ou à un autre, quand même, des procédures? Est-ce qu'il y a une référence, le pouvoir en action qui est celui de l'enseignant dans sa classe? Est-ce qu'il s'articule quand même avec ce qu'on appelait, bon, je veux pas être ringard, hein, mais les savoir-faire ou les registres de technicité qu'il peut y avoir derrière et qui sont aussi, à mon sens, même si effectivement les référentiels sont ce qu'ils sont, mais marqueurs d'un certain type de compétences qu'on doit se développer chez les enseignants. Oui, je voulais encore dire un autre petit point, excusez-moi, c'est la distinction novice-expert dont vous parliez tout à l'heure. Alors là, il me semble aussi que pour ce qui est des situations de travail, on avait quand même le modèle de Rasmussen, là, l'analyse du travail avec la double échelle de Rasmussen, qui permettait de rendre compte aussi de ça, à savoir que, effectivement, la représentation que pouvait se faire le novice ou l'expert d'une situation de crise ou d'une situation d'échec ou critique était totalement effectivement différente. Là, je crois qu'il y a une littérature là-dessus qui est importante. Ouais.
Une troisième question où on s'en tient à ce départ-là, surtout que ce sont des questions longues, compliquées. Oui, la dernière. Ça nous permet de mettre du matériau en boîte, oui.
Je vous promets une question courte.
Merci.
C'est par rapport à une des dernières remarques que vous avez faites.
Vous pouvez vous présenter ?
Excusez-moi, je suis Jackie Laurent, je suis formateur dans l'Académie d'Orléans-Tours.
Merci.
Et je suis ici en tant que formateur intervenant dans un dispositif à destination des professeurs repérés en difficulté de toute l'Académie. Et pour lesquels on est amené à faire ou des visites dans les classes ou du travail sur l'analyse de pratique. Dans des séances qui se passent donc hors de présence des élèves. Et vous avez fait une remarque à la fin sur le problème du modèle opératif créé par l'expérience de l'ancien enseignant qui est le formateur. Mais moi, je suis confronté à des gens pour lesquels il semblerait que le modèle opératif ait été repéré comme étant pas très bien opératif, mais déjà construit. Et quelle problématique ça implique de nouveau, c'est-à-dire nous, en tant que formateurs, accompagnateurs, on ne sait pas trop, est-ce que vous pouvez donner une indication sur les axes qui sembleraient les plus privilégiés pour agir sur ces déplacements de modèles opératifs et moyens de repérage dans ce qui pourrait être, nous, notre regard et nos actions.
Bon, on va s'arrêter là, je pense que là, on a un modèle extérieur qui est des professionnels experts comptables qui ne sont pas des enseignants au point de départ et qui doivent communiquer quelque chose. On a l'exemple de technologie et là, on a l'exemple qui est donné transversalement à toutes les disciplines de la question des préconstruits professionnels. Alors, gros.
Oui, ça fait, oui. Alors, je vais peut-être prendre mes réponses dans un ordre différent de celui où les questions ont été posées, parce que, bon, ça me paraît peut-être plus facile. Je vais commencer par la deuxième, là, sur... les pratiques sociales de référence, en particulier par rapport à... Enfin, c'est comme ça que j'ai compris la question... la référence ici à Martinan, et puis un petit peu aussi quand même l'articulation entre didactique des disciplines et didactique professionnelle. Alors c'est vrai qu'il y a un débat qui dure depuis bien longtemps, entre notamment Martinan et moi, ça c'est vrai. Je vais commencer un peu par peut-être une anecdote. Quand j'avais présenté la première fois que j'ai présenté mon travail de didactique professionnelle à Sherbrooke, j'ai commencé de façon un petit peu provocatrice en disant que moi j'avais décidé d'analyser les apprentissages et le développement. C'est quand même c'est vraiment mes objets de recherche, ça. Non pas dans les écoles, mais dans les lieux où on travaille. Alors, Yves Lenoir et tous les gens dans la salle m'ont dit « Comment ? T'es en train de nous dire qu'on ne travaille pas dans les écoles ?» Non, on travaille dans les écoles. Et d'ailleurs, effectivement, le métier d'enseignant est un métier à l'égal des autres. Et puis, il y a des élèves qui travaillent aussi. Hein. Mais c'est vrai que mon souci, c'était de comprendre... ce qui, à mon avis, est la forme anthropologique première de l'apprentissage et qu'on appelle l'apprentissage sur le tas. C'est-à-dire comment, grâce à l'activité, grâce à l'action, se produit de l'apprentissage. Alors d'ailleurs, c'est pas solitaire, hein. Même dans les ateliers ou dans les bureaux, il y a des échanges très très nombreux, mais il y a de l'apprentissage qui se produit, et je pense que c'était ça mon objectif. Et du coup, c'est vrai que pendant un moment, j'ai tenu à me démarquer de la didactique des disciplines. Alors, il me semble que pour répondre à cette question, il y a effectivement, me semble-t-il, moi, il y a deux manières de concevoir, et je pense qu'il y a deux orientations. J'ai participé la semaine dernière à une thèse à Toulouse avec une fille qui était une jeune femme qui avait une formation d'ingénieur INSA en génie mécanique et qui ensuite a fait une thèse en sciences de l'éducation. Et l'essentiel de sa thèse consistait en une discussion, d'ailleurs c'est intéressant si ça vous intéresse je vous donnerai ses références, c'est une discussion entre didactique de la technologie et didactique professionnelle. Et je crois que là il y a une vraie question et je dirais il faut aller jusqu'à la dimension épistémologique de cette question. À savoir que, est-ce qu'il y a d'un côté des concepts pragmatiques et de l'autre côté des concepts technologiques, registre de technicité, etc. Alors, je crois qu'il y a deux réponses possibles. Il y a une réponse qui est une réponse de type transpositif. Mais transpositif tel que Chevalard, dans la deuxième édition, l'a développé. C'est-à-dire, c'est pas simplement du savoir savant, c'est aussi du savoir professionnel. C'est-à-dire comment des concepts, disons, professionnels, pragmatiques, tirés d'un métier, peuvent être à un moment donné transposés pour devenir des concepts scientifiques et techniques. Ça, c'est la première orientation. C'est l'orientation Martinan. Parce que Martinan prend des pratiques sociales de référence, mais ça devient des concepts technologiques. Et puis, il y a une deuxième orientation, qui est la mienne, qui consiste à dire il faut penser les choses de façon dialectique. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement qui permet de transformer des concepts pragmatiques en concepts techniques, et il y a un autre mouvement qui consiste à transformer les concepts techniques, à les pragmatiser pour permettre une orientation et un guidage de l'action. Et là, on voit bien que la didactique de la technologie... on peut interpréter la didactique de la technologie, à mon avis, avec ce double mouvement. Et là, je voudrais faire référence à quelqu'un qu'on a peut-être un peu oublié, mais moi, je trouve qu'il avait trouvé quelque chose de majeur. C'était en didactique des maths. C'est Régine Douani, quand elle parle de la didactique outil-objet. Un concept se construit comme outil parce qu'il permet de traiter un certain nombre de situations, Et un concept, à un moment donné, se construit comme objet parce qu'on essaie d'en identifier les propriétés. Et je crois qu'il y a un double mouvement, et dans les formations professionnelles, alors je pense que ça c'était un peu un des éléments que je répondrai par rapport à la première question, c'est-à-dire quand on a affaire à des professionnels, dans les formations professionnelles, eh ben, on s'aperçoit qu'il faut ce double mouvement. Il faut un mouvement à un moment donné qui fait qu'on se... On se décale, on prend de la distance, on sort la tête du guidon par rapport aux dimensions pragmatiques de l'action, et donc on va faire jouer les propriétés, on va construire des concepts objets. Mais à un moment donné, ces concepts objets, il faut les reverser à l'intérieur de l'activité, parce que une formation de technicien, une formation d'ingénieur, une formation de comptable, c'est une formation professionnelle. Et la question que je posais, moi, dans ce jury, qui était fort intéressant, d'ailleurs, très intéressant, c'est de dire dans quelle mesure on peut introduire de l'activité dans une formation technique et professionnelle. Pas simplement des savoirs, pas simplement une didactique disciplinaire.
Et introduire l'égalité, c'est pas simplement introduire du stage.
Ah non, c'est pas simplement. Voilà. Ou alors, le stage, ça peut être une chose, mais il faut le travailler en alternance, c'est-à-dire, à un moment donné, faire une analyse de l'activité, c'est-à-dire de la conceptualisation telle qu'elle s'est faite. Mmh. Et je crois que là, c'est ce double mouvement, moi, qui est ma réponse. Alors, on a un débat avec Jean-Louis Martinan, c'est clair, ça fait je sais pas combien de temps, mais c'est sûr.
Mais ça, c'est des problèmes subjectifs d'identité aussi, je pense. C'est comment on a construit son identité professionnelle, et en particulier, à partir de quoi ? C'est-à-dire que moi, ce qui me fait trouver très important la présence des didactiques spécialisées, c'est qu'elles sont constitutives d'une identité professionnelle et qu'on ne peut pas commencer à dire à un jeune qui vient de arriver à réussir finalement son CAPES d'histoire-géographie où il y a une personne sur 28 qui réussissent, ce qui était quand même que la première chose qu'il doit faire en arrivant dans sa classe de collège, c'est d'oublier qu'il est historien-géographe, historien surtout, et commencer par dire qu'il faudrait qu'il fasse de la pédagogie. Je veux dire que la définition identitaire de ce qu'il a construit à l'université en faisant de la discipline histoire ou géographie, je prends celle-là parce que justement il y a une bivalence intéressante qui montre que on n'est pas tout à fait spécialisé d'une discipline, mais on est identifié à ça. Et Jean-Louis, ben, il est marié avec la physique quand même au point de départ, Jean-Louis Martin.
Ah ben ça fait partie de son identité, ça c'est clair. Et moi j'ajouterais une chose, c'est que il s'agit pas de choisir entre didactique disciplinaire et didactique professionnelle.
Non, pas de choisir.
Je crois que si vous voulez, dernièrement, Philippe Attier m'avait demandé de venir à Lyon pour une entreprise RTE, anciennement EDF. Il s'occupe du transport d'électricité. Et bon, on m'a demandé d'intervenir, c'est un monde de techniciens, un peu des professionnels. Moi, une des choses que j'ai dites, c'est de dire, quand on devient formateur, en étant professionnel, quand on devient formateur, il n'y a pas deux compétences. Il n'y a pas une compétence, je dirais, technique, et puis une compétence de formateur. Il y a une reconfiguration profonde de la compétence, et effectivement un historien, un géographe, un philosophe aussi, il en reste toujours quand même quelque chose, beaucoup même, surtout quand l'âge vient, on trouve des trucs. Mais je crois qu'il n'y a qu'une compétence, et il y a une compétence qui mérite, alors qui demande à être reconfigurée en profondeur. Parce que enseigner la physique, c'est pas être physicien.
Oui, voilà.
Et pourtant, on ne peut le faire que si on a des connaissances et si on a un fond de physique suffisant. Mais enseigner la physique, c'est reconfigurer de façon extrêmement profonde sa compétence professionnelle pour ensuite, par exemple, il y a quelque chose qu'on connaît bien en ergonomie, c'est ce qu'on appelle le laconisme des experts. Mmh. Vous interrogez un expert, il n'est pas capable, la plupart du temps, de vous dire, il ne va pas au-delà de 20% de ce qu'il sait faire. Non, j'exagère un peu, mais souvent, il ne sait pas dire comment il fait. Et une collègue, Annie Veifacina, avait montré que ça s'accentue avec l'âge.
Oui.
Alors, il y a un laconisme des experts.
Non, c'est pas
quand on est enseignant, il faut apprendre à dire ce qu'on fait.
Oui. Non, mais je pense que le laconisme qui s'accentue avec l'âge, il me semblait qu'elle le disait aussi, c'est que les experts sont de plus en plus conscients au fur et à mesure qu'ils vieillissent, à quel point il y a beaucoup de choses, c'est pas la peine de les dire, parce que de toute façon, ça peut pas être entendu.
En plus,
voilà. À cause du fait que les gens qui sont en face, on sait qu'ils n'ont pas, pour le moment, les catégories de réception qui permettraient de s'en servir, sauf de manière qui serait une semi-habile, une mauvaise habileté qui serait, dont le résultat serait pire que de ne pas savoir, que de penser qu'on ne sait pas.
Ouais. Possible. Mais il n'empêche que quand même le fait d'avoir une fonction d'enseignement, de transmission par rapport à une première expertise, ça nous a obligés, ça nous oblige à dire.
Oui, ça va.
À dire ce qu'on fait. Alors, quelquefois, moi, vous savez, il m'est arrivé, mes étudiants me disaient, comment on fait là pour... Je ne peux pas vous dire comment on fait. Par contre, je peux vous raconter des histoires. Voilà. Je peux vous raconter comment un tel a fait, ouais, comment j'ai fait, moi, etc. Et ça marche. Et ça marche parce que les gens arrivent assez bien à transposer. Alors, ceci dit, moi, il y avait la troisième question. Alors, c'est vrai que, si j'ai bien compris votre question, c'est comment faire avec des gens qui ont construit un modèle opératif, mais qui n'est pas très satisfaisant, quoi.
Hein. Aux critères de l'institution.
Oui. Alors ça, aux critères de l'institution, je ne sais pas répondre.
Ouais.
Je ne sais pas répondre à force de... Et si vous voulez, moi, il m'a semblé que c'était beaucoup plus important d'aller regarder ce que les gens faisaient que d'aller essayer d'observer ce qu'ils auraient dû faire et qu'ils ne faisaient pas. Je sais qu'on peut probablement pas échapper aux bonnes pratiques, au concept de bonne pratique, ou à la notion de bonne pratique. Je pense quand même que ça vaut la peine de prendre un moment pour aller observer, regarder, avant d'introduire trop vite la prescription, parce que la bonne pratique, on est dans la prescription. Mais par contre, c'est vrai que c'est un vrai problème. Des gens qui ont déjà une expérience, qui ont construit donc un modèle opératif, et dont on peut s'apercevoir que ce modèle opératif, ou bien il est trop étroit, ou bien il est... Bon, alors, comment répondre à ça? Ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'ai pu observer... mes domaines de recherche a été essentiellement des domaines techniques. Hein, c'était bon. À l'époque, c'était comme ça. Et Anne-Marie a bien dit au début. Ça me permet d'ailleurs, tiens, de faire une anecdote pour répondre à, faire écho à ce que tu disais au début, les bas niveaux de qualification, etc. La première recherche de terrain que j'ai faite, la première, hein, c'était avant les bas niveaux de qualification. C'était dans une filiale de la Thomson. Où dans un atelier, il y avait des opératrices, hein, des femmes, uniquement, pratiquement, OS, qui réglaient des tuneurs de téléviseurs. Alors, les tuneurs, c'est un petit truc qui permet de changer la fréquence de réception pour avoir plusieurs canaux sur le même téléviseur. Donc c'est un truc électronique, il y avait des filtres électroniques. Et ces opératrices, sans formation, hein, la formation est venue après coup, elles avaient à régler ça. Il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient. C'était un peu l'aristocratie ouvrière de l'atelier, celle qui arrivait à avoir ces postes de réglage. J'ai fait l'analyse du travail et j'étais content de moi parce que j'avais trouvé une situation problème. Il y avait vraiment une situation où il fallait de l'intelligence de la tâche alors qu'on était dans un truc complètement taylorien. Donc il fallait une intelligence de la situation. J'ai fait une analyse, j'étais content de mon analyse, je suis allé la montrer à l'ingénieur chef de fabrication, il m'a dit « Monsieur, vous avez trouvé une situation problème, je vais tout faire pour la supprimer et l'éradiquer. » Bon, j'ai dit « Je vous souhaite bien du plaisir. » Mais c'était un peu ça. Et alors, il me semble que c'était une différence majeure qu'il y avait avec le monde de l'enseignement, parce que un enseignant, on va pas... Si vous voulez, un enseignant, normalement, il a une certaine intelligence de la tâche. il a une certaine intelligence de la situation. Et je dirais, ce qui a fait que pendant très longtemps, le fait de transposer les cadres, les concepts et méthodes de l'ergonomie au monde de l'enseignant, c'est que d'un côté, on avait quelque chose de très procéduralisé.
Qui pouvait être procéduralisé jusqu'à un certain point.
Et nous, notre boulot, c'était de montrer qu'il n'y avait qu'un certain point. Et qu'au-delà d'un certain point, il y avait quand même des problèmes et qu'on ne pouvait pas les enlever, on ne pouvait pas les éradiquer. Mais c'est vrai que dans le monde de l'enseignement, les problèmes, il y en avait tellement que c'était pas la peine de trop les chercher. Il y avait surtout ça, il y avait une grande intelligence de la situation. Alors, tout ça, c'est une parenthèse. Je reviens maintenant à votre question. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans les formations professionnelles, que ce soit des professionnels débutants ou même des professionnels continués, ce qui m'a paru, j'ai pu observer, alors c'était sur simulateur, donc avec un intérêt, parce que on peut avoir des traces, on peut revenir, on peut faire de l'autoconfrontation, on a quand même beaucoup de moyens qui permettent de faire l'analyse. Mais j'ai pu observer ce que j'ai appelé moi des genèses opératives. C'est-à-dire des gens qui avaient un modèle opératif, qui essayaient de l'appliquer à une classe de situation pour laquelle il n'était pas fait, et qui du coup étaient obligés de le transformer. Et là, on assiste à des moments, mais à mon avis, extraordinaires, où là, je me souviens d'un jeune ingénieur qui disait, c'est pas ça que je m'attendais à trouver, mais je peux pas aller contre les faits. Donc, si je peux pas donner tort aux faits, je ne peux donner tort qu'à mon modèle opératif. Et à ce moment-là, on peut voir, et je crois que l'analyse réflexive rétrospective qui se fait après coup est essentielle pour ça, on peut voir comment il y a une mutation qui se produit au niveau du modèle opératif. Alors, j'ajouterais, puis je terminerai là-dessus quand même, j'ajouterais que ce modèle opératif, si vous voulez, que j'appelle moi un peu à la suite de Pierre Rabardel. Alors, j'ai peut-être pas indiqué qui était Rabardel.
L'homme de l'artefact, quand même, c'est important.
Voilà, l'artefact et l'instrument. Rabardel est un psychologue qui a travaillé pendant un certain temps à l'INRP.
Oui, absolument.
Ensuite au CNAM et qui est maintenant à Paris 8. Et il fait de la psychologie ergonomique, donc spécialisé dans l'analyse de l'activité. Et en particulier, évidemment, dans l'analyse du travail. Alors, pourquoi je disais ça, Rabardel, je ne sais plus pourquoi je suis... Oui, alors, genèse opérative. Donc, j'ai emprunté à Pierre Rabardel, on a travaillé pendant avec Yves Clos, Rabardel, etc. On a fait un groupe théorique qui a duré 4 ans, où on a essayé un peu d'explorer comment on pouvait concevoir l'organisation de l'activité dans le travail. Et la genèse opérative, c'est un moment où un acteur est quasiment contraint de transformer son modèle opératif pour l'ajuster à la nouvelle classe de situation qu'il rencontre. Alors, ces moments, si vous voulez, de confrontation à une nouvelle classe de situation, moi, à mon avis, c'est tout à fait important. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que ce qui m'est apparu, c'est que il s'agit pas de remplacer un modèle opératif par un autre. Il s'agit, alors là c'est mon vieux, c'est des vieux souvenirs de Bachelard, de philo, ça. Oui. La philosophie du non.
C'est dépassé.
C'est-à-dire que la philosophie du non chez Bachelard consiste pas à écarter un modèle pour le remplacer par un autre. Ça consiste à monter en niveau d'abstraction. La géométrie non euclidienne, c'est pas le contraire de la géométrie d'Euclide. C'est ce qui permet d'intégrer à la fois la géométrie de Klein, la géométrie de Riemann, etc. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et on voit les choses fonctionner comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut intégrer la nouvelle classe de situation dans le modèle opératif. Et du coup, ça oblige à le reconfigurer. Et je cite toujours dans ces cas-là, Canguilhem, qui dit « Les contradictions ne naissent pas des concepts, mais de l'usage inconditionnel » de concept à structure conditionnelle. C'est-à-dire que la plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'on est dans une classe de situation, dans telle condition, et que parce qu'on apprend comme ça, si vous voulez, on apprend toujours en référence à une situation qui a été prototypique pour nous, et c'est très difficile d'aboutir à l'élargissement. Le sens de ma réponse est de dire l'élargissement, c'est une augmentation au niveau du niveau d'abstraction. Voilà.
j'ai des doutes sur la valeur d'usage du niveau d'abstraction, mais on pourra y revenir dans la suite de ces journées, parce que je me demande si le risque n'est pas permanent, c'est que, je dirais, le temps que prend à des formateurs, par exemple, le temps de lire toutes ces choses tellement passionnantes et intéressantes pour en s'en faire des connaissances dont ils auraient probablement des usages, d'abord, il leur faut plusieurs années. Hein, donc, or, le problème, c'est demain matin qu'ils ont besoin d'être opérationnels. Et puis la deuxième chose, c'est que ça donne beaucoup de mots pour parler les situations de manière abstraite. Et j'ai bien peur qu'on forme de plus en plus des gens qui ont de la théorie d'une pratique qui leur échappe ou qui s'éloigne. Et c'est une des questions pour moi comment faire pour que ces savoirs construits, on n'aurait pas organisé ces journées si on pensait pas qu'ils sont décisifs et utiles, mais pour faire en sorte qu'ils soient réellement utilisables. Pas simplement pour faire des articles, des thèses, bon, tout ça c'est très bien, mais enfin bon, c'est un boulot d'un côté, mais c'est pas de la formation, mais qui soit utilisable par des formateurs dans leur vie quotidienne de formateur. Et je vois par exemple comment l'analyse de pratique auquel que j'ai contribué à aider, mettre sur les fonds baptismaux, j'étais très favorable à l'existence de modules d'analyse de pratique dans les UFM, à quel point ça d'abord produit des gens qui savent parler des situations critiques et pas critiques et qui se sont construits un langage commun pour causer de ce qu'ils font, mais beaucoup plus que ça a aidé les gens, me semble-t-il, à résoudre dans la classe les problèmes. J'exagère peut-être en disant ça, mais me semble que c'est de ce côté-là quand même que faut appuyer où ça fait un peu mal quand même.
Oui, ben écoute, moi ça me donne vraiment envie de réagir par rapport à ce que tu dis là, parce que c'est essentiel. Alors, j'ai envie de dire deux choses. D'abord, bon, alors les trucs de langage, moi j'appelle les modèles opératifs. Bon, je veux simplement dire qu'un modèle opératif, ça se transmet pas. C'est pas la peine d'enseigner un modèle opératif. Un modèle opératif, ça se construit. Et là, on retrouve, à mon avis, la thèse majeure de Brousseau. Hein. C'est-à-dire que il faut vraiment que ça se construise dans l'action. Mais c'est quand même utile d'avoir un enseignant qui institutionnalise, qui dit là, vous avez vu ce que vous avez fait. Hein. Eh ben, on peut le généraliser. Ça, c'est généralisable. Ah bon. Ah oui, ça, c'est intéressant ça. Mais si on n'a pas cet exercice de l'action au point de départ, bah c'est sûr que si on fait un cours sur la manière de chercher les organisateurs dans l'activité enseignante, en disant voilà, vous êtes des jeunes enseignants, je vais vous faire un cours là-dessus, premièrement, deuxièmement, ça donne pas grand-chose. Je pense que, on apprend par l'action, par l'exercice de l'action, et ça pour moi c'est majeur. Et on apprend aussi par l'analyse de ce même exercice de l'action fait après coup. Alors c'est vrai qu'on n'apprend pas les mêmes choses, mais que si on n'a pas cet exercice de l'action, donc la construction de l'expérience, eh bien, on ne peut, si vous voulez, on sait tous que entre la théorie et la pratique, il n'y a pas de rapport d'application. La pratique n'est pas l'application de la théorie. La pratique, il y a une conceptualisation qui est spécifique à la pratique et du coup, il faut vraiment la toucher du doigt. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel, ça. Alors, on ne peut pas faire un cours sur le modèle opératif et les organisateurs de l'enseignant. Moi, je trouve que ce serait un peu bête. Par contre, c'est des choses, à mon avis, qui sont utiles pour permettre l'analyse de ce qui s'est passé, parce que ça peut quand même être des outils d'analyse. Et alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est ça. Quand j'ai terminé là sur l'intrigue là, parce que pour moi c'est un instrument qui est assez pratique, qui est accessible.
Bon, oui, mais parce que les gens comprennent les histoires en général.
Alors, simplement, je voulais rappeler une chose, c'est que moi j'ai théorisé quelque chose que j'ai déjà observé, sans rien demander, auprès de jeunes ingénieurs. C'était une formation sur simulateur, conduite de centrale nucléaire. Bon, j'ai fait 7 ans de recherche là-dedans, bon, bah, c'est comme ça. Et on observait des jeunes ingénieurs. Et alors, Il y avait les formations se faisaient de la manière suivante. C'était des formations où on était chercheur, observateur. Nous, on n'intervenait pas directement dans les formations. Alors, il y avait 3 heures par jour de séances sur simulateur où les gens, ils étaient vraiment dans la pratique. Alors, simulateur pleine échelle, parce que on voulait pas leur faire conduire une centrale nucléaire.
Pour de bon, c'est un peu dangereux. Oui, c'est un peu dangereux.
Mais ensuite, alors, on avait, nous, intercalé 2 entretiens. 2 séries d'entretiens d'autoconfrontation, puis il y avait une séance de débriefing général. Et alors, les 2 entretiens, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Premier entretien, on disait, écoutez, racontez-nous ce qui s'est passé dans les 3 heures. Alors racontez-nous ensuite, à votre avis, quels ont été les moments intéressants, les moments critiques, etc. Et puis comment vous expliquez ces moments critiques ? Ça, c'était le premier entretien. Deuxième entretien, ça suivait tout de suite après. Moi, j'avais eu l'idée, comme ça, je sais pas pourquoi. On avait des courbes de certaines variables, température, niveau, etc. Et je leur demandais de raconter les 3 heures de ce qui s'était passé, non pas en fonction de leurs souvenirs, mais en fonction des courbes. Puisque là, il y avait les 3 heures au point de vue temporel, il y avait des pics, des creux, etc.
Qui avait été enregistré dans les machines.
Voilà, bon. Et ils ont complètement détourné la consigne. C'est-à-dire que, dans le premier entretien, ils commençaient à construire une hypothèse en disant, si ça s'est passé comme ça, si on a abouti à un arrêt d'urgence, et ça quand même c'était... Bon, c'est que probablement il y avait ça. Et dans le deuxième entretien, à la fin, ils m'ont dit, écoutez, d'accord, vos courbes, ok. Mais vous pourriez pas me donner telle courbe là, parce que je voudrais bien vérifier, parce que si mon hypothèse est exacte, alors je dois trouver des vérifications. Autrement dit, ils construisaient l'intrigue. Et ils passaient progressivement du vécu au récit, du récit à l'intrigue, et puis de l'intrigue, évidemment, à la fin, à la conceptualisation. Et au fond, l'instrument ensuite que j'ai théorisé, j'ai simplement mis un peu d'ordre et des mots sur ce qu'ils avaient pratiqué, je dirais, presque contre la consigne. Mmh. Mais je crois que ça, c'est peut-être une manière de fonctionner. C'est-à-dire que y a quand même... Les gens ont une capacité d'analyse. Et cette capacité d'analyse, alors, effectivement, il faut qu'elle soit aidée. Et en particulier, je pense que l'important dans ces cas-là, c'est un de mes vieux dadas, c'est il faut recueillir des traces de l'activité. Mmh. C'est pas simplement la mémoire, quoi. Si on peut avoir des traces, c'est quand même mieux. Et puis, il faut des cadres d'analyse. Et des cadres d'analyse qui permettront ensuite aux gens de rentrer dans l'analyse de leur propre activité. Mmh. Comme je répondrai à...
On a encore 5 minutes. Oui, Dominique, vas-y.
Je veux bien continuer la discussion et répondre en même temps, mais on est bien dans la même...
Alors,
Dominique Bucheton.
C'est sur cette question de comment transformer les concepts pragmatiques ou plus théoriques et technologiques quand on est en formation. Voilà, c'est une question centrale. Il va falloir transformer en formation initiale. Mais en formation continue aussi. Et moi, ce qui me frappe, là, c'est par exemple les situations, on les a en ZEP en permanence, quand on fait la formation continue en ZEP, là. Moi, je travaille beaucoup sur le CP actuellement. Et la question, c'est, on a des enseignants qui se sont construits des modèles opératifs, qui pour eux sont des bonnes pratiques. Et la question en formation, c'est de faire sortir quels sont les repères qui leur font dire que c'est des bonnes pratiques. Et alors, quand on a des situations, quand on donne des vidéos, etc., on peut faire parler, on peut faire des controverses professionnelles, et on se rend compte qu'ils ont construit des repères qui sont les élèves fatiguent vite, les élèves n'ont pas d'attention, il faut faire beaucoup d'exercices, etc. Donc ils ont tout un tas de repères qui sont là. Et la question est donc après, comment je vais faire bouger ces repères, qui sont solides, qui sont... C'est vrai, on peut... Ils ont forcément raison. Et donc, la question est bien ce que tu disais. J'essaye de répondre concrètement. D'inventer des situations, de leur faire vivre des situations qui vont leur permettre de mettre en défaut ces repères. Parce que tant qu'ils ne sont pas mis en défaut, ces repères, ils sont des organisateurs de la pensée et de l'activité. Et ces repères, ils ont été construits très, très profondément, hein. Les travaux d'Isabelle le montrent bien, dans une subjectivité, une histoire, une identité profonde, leur identité d'élève, quelquefois, du bon maître qu'ils ont eu, etc. Donc, ils sont extrêmement, extrêmement solides, ces repères. Et donc, la question en formation, enfin, c'est une des réponses qu'on essaie de trouver, c'est d'inventer des situations, de les obliger à mettre en place des situations qui vont faire bouger ces choses. Alors, sur le CP, par exemple, et sur d'autres, et en collège actuellement, on est en train d'essayer de mener des expérimentations où on les oblige, évidemment avec leur consentement, hein, à mettre en place ce que nous avons appelé des ateliers dirigés. C'est-à-dire des ateliers où le maître est tout seul avec 6-7 élèves. Et donc, du coup, pendant une demi-heure, pendant que les autres sont en autonomie, etc. Et donc, du coup, là, ben, il se passe autre chose. Parce que les élèves n'ont pas la même activité. On se rend compte que pendant une demi-heure, oui, ils peuvent être extrêmement attentifs. Ils peuvent parler, ils peuvent discuter. Et là, il y a redécouverte de la capacité des élèves. Et donc, d'un certain... et redécouverte aussi, par exemple, qu'un certain nombre de concepts didactiques qui leur paraissaient les transformations en mathématiques, là, tout à fait évidentes et faciles, brusquement, ils découvrent que cet objet qui était pour eux extrêmement simple et élémentaire, ben, il ne marche pas. Et donc, en fait, pour contribuer dans ce que tu dis, c'est bien en leur proposant des situations didactiques, alors on va les filmer, et puis après on repasse le film et on remet en discussion. Et donc je continue ce que tu dis, je partage totalement ton point de vue, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient fait, il faut que ce faire ait modifié leur genèse opérative première, modifié, transformé, mais ça suffit pas. Il faut encore qu'ils en discutent, parce qu'il faut encore qu'ils reconstruisent collectivement une nouvelle identité professionnelle. Et ce n'est pas singulièrement qu'ils peuvent la construire. C'est-à-dire qu'il faut que le groupe décide que, oui, dans cette situation, les élèves de 6 ans peuvent tenir une demi-heure en atelier d'écriture sans décrocher. Alors que, quand on leur a posé la question la première fois, ils ont tous dit non, au bout de 10 minutes, c'est fini, ils peuvent plus, il faut faire autre chose, etc. Donc la question, c'est à la fois, effectivement, de donner l'occasion d'expérimenter de nouveaux concepts pragmatiques, mais aussi de les théoriser, de les partager et de les construire professionnellement. Hein. Donc, je crois que je dis la même chose que toi, oui. à partir d'un exemple. Bon,
simplement, peut-être poser quand même une question, c'est que l'objectif, ce qu'on vise est différent quand on veut simplement, je dirais, permettre à des enseignants volontaires d'ailleurs, hein, augmenter leur liberté et leur efficacité professionnelle en même temps. Oui. Et puis quand il faudrait former des formateurs, par exemple des futurs maîtres d'application, et qui seraient avec une classe et en même temps qui interviendraient auprès de jeunes, parce que c'est pas la même chose de faire une très bonne pédagogie ou une meilleure pédagogie et puis de faire une pédagogie lisible par des jeunes, parce que pour moi, tous les premiers instits géniaux, les Karajan de la pédagogie que j'ai rencontrés, leur grande caractéristique était d'être des pédagogues de l'invisibilité de ce qu'ils faisaient, parce qu'ils étaient, par exemple, comme des Freinet, dans des contrats individualisés, et eux, ils avaient la mémoire de tout, mais le visiteur qui arrive voit rien. Bon, donc ils sont très mauvais du point de vue de la formation de jeunes qui arrivent, puisqu'on peut pas pénétrer dans la boîte noire. Puis c'est encore une autre chose quand on est dans une situation où du fait que quelqu'un a été considéré comme suffisamment expert, il arrête d'avoir la classe et il va devenir un conseiller pédagogique et il pourra plus jamais faire ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on est dans la situation où d'une certaine manière on ne travaillera plus que sur une mémoire d'expertise, alors souvent entièrement singulière, parce que beaucoup de formateurs n'ont jamais travaillé, n'ont jamais vu des collègues. Et c'est finalement, je dirais, presque le cas le plus fréquent dans le système institutionnel français. Et à mon avis, là, toute la question sur temps partagé, temps complet, moi, j'ai beaucoup défendu, parce que c'était mon biftec, que formateur, c'était un travail à plein temps, et que être à temps partagé... Mais en même temps, je vois bien les arguments très forts de ce que tu dis sur le problème du temps partagé, et de si un formateur est quelqu'un qui ne peut plus évoluer comme praticien, alors, est-ce que le modèle de formation qu'il va transmettre n'est plus quelque chose qui est dans... Oh ben, c'est le cas de tous les enseignants-chercheurs. Que je sache, ils continuent de parler de la classe. Il y a belle lurette que sur eux-mêmes, ils éprouvent plus du tout rien de tout ça avec des élèves réels. Donc, la question se pose pas simplement pour les formateurs IEFM. Il se pose pour tous les enseignants-chercheurs qui, au bout d'un certain... font de la prescription didactique. Puisque finalement, quand on fait... Je te pousse de vivre des situations nouvelles, c'est bien qu'on pense qu'il faut changer. quand tu dis on veut qu'ils changent, ça veut dire qu'on trouve que ce qu'ils font, ça ne va pas. Ça ne va pas assez. Alors, voilà, il y a des modèles qui circulent en ce moment, pas cher, hein, sur compagnonnage.
Oui. Moi, ce que je veux dire par là aussi, c'est que, là, on rentre dans le politique, mais la possibilité qui est offerte d'universitariser la formation des maîtres, et donc de l'accrocher le plus près possible à des travaux de recherche, à des savoirs, etc. Et on voit bien que dans le champ de l'ergonomie, des didactiques, il y a eu des sauts considérables ces 15-20 dernières années, devrait pouvoir permettre de mettre en place, enfin c'est ce qu'on essaye de faire à Montpellier, je ne sais pas si on va y arriver, notamment un master de formation continue, j'expliquais à Isabelle, qui permettrait de reprendre des enseignants de terrain, de collège, de lycée ou de l'école primaire qui voudraient faire un master et de l'accrocher à du travail des équipes de recherche pour que on construise des interrogations sur leurs propres pratiques et les transformations nécessaires. Donc on est à un moment là où il y a plein de possibilités, je ne sais pas si on aura l'intelligence de les attraper, mais où on pourrait éventuellement penser les choses. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le discours de Pierre, là, c'est toujours qu'il y a cette dimension du développement professionnel dans l'action de concepts pragmatiques, mais en même temps cette idée que sans conceptualisation et sans partage professionnel du communauté, on n'avance pas. Hein, voilà. Je ne vais pas tenir la parole.
Bon, la question va se poser si le lieu du partage le plus pertinent, c'est la fac.
Parce que c'est dans la continuité de ce qu'a dit Dominique. Hein. Moi, j'interprète ça, si vous voulez. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments, dans l'activité, il y a des moments de fonctionnement et il y a des moments de développement. Les moments de fonctionnement, c'est le modèle opératif est en place, il fonctionne, il ronronne, et parfois même, il se sclérose un peu. Et puis, il y a des moments qui me paraissent privilégiés, mais qui sont toujours difficiles, qui sont des moments de développement. Et c'est des moments de rupture, de conflit cognitif, et qui, du coup, peuvent élargir le modèle opératif des gens, à condition, et je crois qu'effectivement c'est ça que tu dis, à condition de pas oublier la conceptualisation et de pas oublier le fait de se l'approprier, parce que ces moments de développement, c'est des moments qui peuvent être un peu hachés. Et s'il n'y a pas une continuité de la conscience, qui permet de se les approprier et de les lisser dans le temps, eh ben ce sera peut-être des moments intenses, intéressants, mais peut-être pas suffisamment productifs.